Bicicletta
e Musica.
Une chronique de Samuel Ruch et Christiane Weissenbacher.
Après la ville de Potosí, je me dirige vers le Salar d'Uyuni. La dernière nuit avant d'arriver à Uyuni, je suis accueilli dans une école de village. Le Salar d'Uyuni étant une destination privilégiée des cyclo-voyageurs, le directeur reçoit régulièrement des voyageurs à vélo dans son établissement. Il me propose donc de passer la nuit dans une salle annexe de l'école plutôt que sous la tente. Ce n'est pas du luxe, car à presque 4000 mètres d'altitude, les nuits commencent à être vraiment froides. Le lendemain, un dernier col a passé à plus de 4000 mètres et me voilà descendant sur le Salar. Il s'agit du plus grand désert de sel au monde, situé sur les hauts plateaux de Bolivie. Une étendue de 150 km sur 100, c'est-à-dire presque deux fois l'Alsace. Sa traversée à vélo est l'une des expériences les plus incroyables de mon voyage. En saison sèche, sa surface de sel est parfaitement plane, lisse et d'un blanc immaculé. Aucun repère visuel ne permet de s'orienter, il n'y a que du sel à perte de vue dans toutes les directions. D'ailleurs, au bout de quelques heures à pédaler sans rien voir d'autre que cette étendue parfaitement blanche qui se mélange au ciel à l'horizon, on finit par chercher n'importe quel repère, une voiture, sa propre main, pour casser la monotonie visuelle. Après environ 70 km, j'arrive sur l'île d'Incahuasi, un petit bout de rocher qui se dresse au centre du Salar. Je plante ma tente sur le Salar même, à une centaine de mètres de cette île. Avec une telle vue sur le Salar, j'ai le sentiment que ma tente vaut bien le meilleur hôtel du monde.
Vous avez reconnu le charango. Il accompagnait cette fois la voix caractéristique de Luzmila Carpio, qui chantait en langue quechua le premier air d'un album dont le titre peut se traduire par « Réapproprions-nous notre savoir ». Née en 1954 dans un petit village du département de Potosí perché à 4000 mètres d'altitude, Luzmila a toujours eu en effet le souci de raviver la civilisation inca de ses ancêtres décimés par les conquistadors. Et aujourd'hui, aux côtés de l'UNICEF et de la CIMAD, elle combat aussi les conquistadors modernes qui s'en prennent aux paysans, aux femmes, aux enfants, aux migrants et à Pachamama, la terre nourricière. Elle a enregistré de nombreux CD, connus non seulement dans son pays, mais aussi en Europe, où elle fut ambassadrice de Bolivie en France de 2006 à 2011. Comme nous sommes encore en Bolivie, j'aimerais à présent clore le chapitre sur les réductions jésuites en répondant à une question qui vous taraude peut-être autant que moi. Cette musique sacrée apprise auprès des jésuites, les indigènes surent-ils se l'approprier au point de devenir eux-mêmes compositeurs? La réponse réside dans la plage suivante. Une aria para nuestra reina y señora María Luisa de Borbón, écrite pour trois solistes vocaux, trois chœurs, violon et basse continue, et due à trois Indiens qui, faits nouveaux, l'ont signée de leur nom. Elle fut composée en 1790, c'est-à-dire 23 ans après le départ des Jésuites en 1767, et dans le cadre de festivités organisées pour l'anniversaire de la reine d'Espagne, la petite fille de Louis XV de France et de Philippe V d'Espagne, promue reine d'Espagne lors de l'accès au trône de son mari Charles IV en 1788, et âgée de 39 ans en 1790. Au-delà de la preuve du rôle créatif joué par les autochtones et assumé désormais à découvert, le chef d'orchestre Gabriel Garrido voit dans cette œuvre un symbole de la survie d'une culture que les Indiens ont faite leur.
Il est temps maintenant de partir vers le sud. Mais avant d'arriver au Chili et en Argentine, il me reste à passer le massif du sud Lipèze. Ce qui ne va pas être de la tarte.